Le Saint-Esprit dans l'Église. Notre trop rapide esquisse de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme n'a pas achevé notre tâche, parce que le but suprême de Dieu n'est pas l'individu isolé, ni une agglomération d'individus isolés, mais un corps d'être parvenu à la perfection, et qui n'y parvienne que dans ce corps lui-même. De telle sorte que si le corps n'existe pas sans les membres dont il est la résultante, les membres, eux, ne sont pas davantage sans le corps qui leur permet seul d'atteindre leur destination. C'est là ce cas du plus ou moins méconnu, l'individualisme excessif, fruit de la réaction contre les régimes dans lesquels l'individu n'existait pour ainsi dire pas. Cette réaction a produit des caractères fortement trempés, des esprits indépendants et investigateurs, des personnalités originales, mais dont les lacunes même, les étrangetés, pour ne dire que cela, et les souffrances secrètes ont assez prouvé que, sur ce point aussi, à la thèse et à l'antithèse doit succéder la synthèse, c'est-à-dire la conciliation, dans l'équilibre des intérêts individuels et des intérêts collectifs. Eh bien, cette conciliation est l'œuvre du Saint-Esprit. N'est-il pas, nous l'avons dit dès le début, le principe qui, tout ensemble, féconde et coordonne en vue de l'harmonie des contraires, c'est-à-dire de la perfection. C'est donc lui qui, après avoir été, et tout en étant un ferment de vie supérieure, sera un aimant et un ciment qui attirera les uns vers les autres et unira organiquement, par d'indissolubles liens, les éléments qui par lui ont déjà reçu cette vie. Ferment, aimant, ciment, ces trois mots résument assez bien et d'une façon populaire toute l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ le savait tellement, il connaissait si bien la puissance organisatrice du Saint-Esprit qu'il lui a laissé, on peut le dire, avec une confiance qui prouve sa divinité, tout le soin de grouper encore ses disciples présents et futurs. Il savait que l'Église, puisque c'est le nom que devait porter ce corps, serait la création spontanée du Saint-Esprit. Aussi s'est-il borné, durant son ministère, à la mentionner deux fois, deux seules fois. La première, pour lui faire une promesse que les époques les plus désastreuses de son histoire n'ont jamais pu démentir, « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. La seconde, dans ce passage qu'on a appelé la règle de la procédure évangélique pour les cas d'offense entre frères. Si le coupable n'écoute ni toi ni deux autres chrétiens, dis-le à l'Église. Évangile de Matthieu, chapitre 18 et verset 17. De plus, il a institué, en vue de la direction de l'Église future, l'apostolat et deux signes de ralliement, le baptême et la scène. Et c'est tout, tout ce qui est explicite. Qui d'autre que Christ aurait eu cette confiance souveraine dans la puissance de l'Esprit ? Qui n'aurait cédé à la tentation de jeter, tout au moins, les bases d'une constitution et d'une organisation ecclésiastique ? Eh bien, les événements ont donné raison à Jésus-Christ. Avant son départ glorieux, peut-il déjà, en soufflant sur les siens, leur donner les prémices de la Pentecôte avant la Pentecôte, recevez du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. On va avoir non pas encore l'Église, mais l'Église avant l'Église. Dans la chambre haute, les voilà tous ensemble, déjà un seul cœur et une seule âme, ces douze entre lesquels sans cesse jusque-là avaient régné rivalités et discordes. Aux douze se sont joints des disciples du crucifié, et parmi eux ses frères, hier incrédules et moqueurs, et sa mère, morte à elle-même et devenue spirituellement la fille de son fils. Les forces d'attraction triomphent donc déjà des forces centrifuges, et l'esprit qui rassemble a vaincu l'esprit qui disperse, parce que tous ces « moi » sont restés dans le tombeau de Jésus-Christ. Vienne la Pentecôte elle-même, qui les remplira tous de l'esprit, et l'heure aura sonné, l'heure indicible pour laquelle finalement Jésus-Christ est né, a vécu, puis est mort. Oh, quelle ère nouvelle pour l'humanité tout entière s'ouvre dans cette chambre haute. Le tremblement de la maison, les flammes de feu, les langues étrangères, ce ne sont là maintenant pour nous que des accidents nécessaires pour attester l'invasion de l'esprit dans l'homme. Mais les effets spirituels, les transformations immédiates ou progressives opérées par l'esprit dans les âmes, voilà ce qui nous intéresse et nous émeut aujourd'hui. Car ces hommes ne sont plus les mêmes. Hier pusillanimes, aujourd'hui ils sont intrépides, stupides hier de leur propre aveu, aujourd'hui ils sont aussi pleins de tact et de sagesse que de fermeté. Plus de préoccupations personnelles, à leur vie il n'y a désormais plus qu'un but, la gloire du crucifié et le salut des âmes. De leur cœur frappé par la verge du divin Moïse, des fleuves d'eau vive comme du rocher de Réphidim jaillissent incessamment, et non seulement en chants de triomphe, mais aussi en brûlants appels qui conquièrent du coup 3000 personnes. Et le miracle n'est certes pas moins grand chez ces 3000 qui n'ont pas été préparés par les 3 années du ministère terrestre de Jésus-Christ. Inconnus les uns aux autres au matin du jour de la Pentecôte, et remplis contre Christ et ses disciples de cette haine particulière, paraît-il, au peuple juif, le soir, les voilà baptisés publiquement au nom de l'infâme et frère de ces Galiléens, honnis de tous. Les voilà eux aussi transformés en nouvelles créatures qui n'auront plus qu'un but, celui d'aimer de l'amour même dont Dieu les a aimés. Et avec les 5000, l'effet n'ira pas encore faiblissant, grâce à cette recrudescence de l'action de l'Esprit, à cette espèce de renouvellement de la Pentecôte que nous raconte le chapitre 4e des Actes. Si l'entrée des païens, convertis sans qu'ils passent par la circoncision, étonne, inquiète, il est vrai, un instant, les chrétiens issus du judaïsme, dans toute cette première période de l'Église primitive, l'unité de l'Esprit n'est pas entamée. Plus tard seulement, il s'y produira, hélas, des fissures menaçantes pour l'œuvre de Dieu. Oh, quel spectacle que celui de cette société sans cesse grandissante, où riches, pauvres, savants, ignorants, les vertueux Nicodèmes d'autrefois, et les péagers à la façon de Zachée, et les femmes de mauvaise vie, les maîtres et les serviteurs, les juifs et les incirconcis, les civilisés et les barbares, tous remplis d'un enthousiasme inconnu à la terre et pur de fanatisme, tous sublimes et héroïques sans s'en douter, assemblés tantôt en réunion plénière dans les parvis du temple, tantôt par groupes dans les maisons pour les agapes, s'entraiment et s'entraident comme des frères et résolvent en fait par l'amour les problèmes les plus ardus qui, 20 siècles durant, vont sans grand succès agiter le monde. On comprend que la population tout entière, sans être gagnée, ait un instant considéré ce spectacle avec une admiration muette qui muselait la haine. N'était-ce pas là la réalisation du rêve qui, depuis Éden, hante l'imagination de tous les plus nobles descendants d'Adam? Éden retrouvé, l'âge d'or des poètes, en petit la société idéale, dans l'océan démonté de l'égoïsme et des haines féroces, un îlot enchanteur, une oasis dans le désert que, dévoré par la soif, traversent incessamment les grandes caravanes humaines. N'était-ce pas l'accomplissement des prophéties les plus invraisemblables d'Ésaïe, la réconciliation du loup avec l'agneau, la fin de l'oppression et des iniquités, la mort de la misère, l'extinction définitive des guerres civiles et internationales, après la paix entre Dieu et l'homme et la paix dans l'homme, la paix entre les hommes et, par conséquent, l'exaucement de la prière des anges à Bethléem et de l'oraison dominicale et l'accomplissement, non plus individuel seulement, mais collectif du programme de Christ dans le sermon de la montagne. Et qu'on n'objecte pas que même à son aurore, ce soleil a eu ses taches. Est-ce que les taches du soleil ont jamais anéanti le soleil? Non, non, l'Église et l'humanité elle-même ne s'y sont pas trompées. Et les regards d'admiration, de regret et d'envie que, dès lors, elles ont toujours jetés sur ce point étincelant de l'histoire, attestent assez que, du premier coup et par la seule puissance du Saint-Esprit, ces chétifs ont su donner à la terre non seulement un modèle achevé et aussi attrayant que saint de la vie chrétienne, mais aussi celui d'une société selon Dieu. Société idéale, qui sera celle de l'avenir appelée inconsciemment par les souffrances de ceux que tourmentent les problèmes sociaux et économiques, ou plus distinctement par ce cri de l'Église fidèle « Seigneur Jésus, viens, viens bientôt ». Quel fut le secret, quelle est l'explication pleinement satisfaisante du merveilleux essor de l'Église naissante. La doctrine, ont répondu beaucoup de ceux qui s'appliquent à surprendre ce secret. N'est-il pas dit, et en première ligne, dans la description de ce grand printemps spirituel, il persévérait dans la doctrine des apôtres. Le ver rongeur de tous les rationalismes n'avait pas de prise sur les robustes racines de ce vigoureux végétal, de là la splendeur de ses feuilles et de ses fruits. Dieu nous garde de dédaigner la doctrine, surtout à une époque où, sous prétexte de vie, on nous propose l'élimination successive de tous les dogmes et de tous les grands faits chrétiens, à l'instar de tels chirurgiens qui, pour se faire la main, nous proposeraient l'ablation sans frais de la plupart de nos membres et de nos organes, en nous assurant qu'ils ne sont pas essentiels à l'existence, puisqu'ils ne sont ni le cœur, ni la cervelle, ni les poumons. Non, non, si la foi est comme je le crois et la définit, un élan de tout l'homme vers Dieu et vers tout Dieu, l'élément de la pensée et par conséquent de la connaissance qui est le tiers de l'homme, ne saurait en être absent, sans compter que cet élan ne peut se produire résolument si je ne sais pas bien à quel être, créature ou créateur, je me donne et je me livre. Mais si la doctrine a été l'un des facteurs de la vie dans la primitive Église, je ne pense pas qu'elle l'ait créée et qu'elle l'explique à elle seule. Comme ne le prouve que trop l'histoire lamentable d'autres périodes où l'orthodoxie la plus rigoureuse n'a fait qu'envelopper d'un linceul immaculé le cadavre d'une Église décédée. À la doctrine, d'autres ont donc ajouté l'organisation pour expliquer l'Église primitive. L'organisation, c'est-à-dire le vase qui contenait ses admirables trésors, et des points les plus opposés de l'horizon ecclésiastique, l'on a tenté de reproduire exactement ces formes apostoliques dans la persuasion que la vie y affleurait aussitôt, comme l'eau dans les tranchées creusées, un jour sur l'ordre d'Élysée pour désaltérer miraculeusement une armée en détresse. Illusion, encore, bien qu'un bon organisme, il faut le reconnaître, puisse non seulement additionner, mais même, on l'a dit, multiplier les forces existantes. Illusion, pourtant, si l'on s'imagine qu'il les puisse créer ou à lui seul retenir. Non, l'Esprit souffle où il veut. Il est la liberté même. Et il est le Saint-Esprit. En dehors des conditions qu'il a posées, nul ne le captera ni ne le canalisera jamais. D'ailleurs, est-il possible de déterminer à quel type répondait l'organisation de l'Église primitive ? Au type presbytérien ? Au type congrégationaliste, au type épiscopal, ou à celui qui préconise l'absence de tout gouvernement. Si partisan que je sois, par conviction, ou du reste ma conscience n'a que faire, du système presbytérien, je ne crois pas que l'Église primitive puisse être revendiquée absolument par ce système, ni du reste par aucun système. Elle m'apparaît à l'état fluide, comme celui du métal bouillant qui n'a pas encore été pris et refroidi dans un moule rigide. Et cet état fluide, cette élasticité, la rend apte à se modifier selon les circonstances locales, de sorte qu'en Crète elle soit plus épiscopale, en Asie plus presbytérienne, par un opportunisme de bon aloi qui n'est que l'adaptation de la vie à l'environnement. L'Église primitive n'est certes pas une âme sans corps, mais ce corps, au début, est tellement près de la vie, selon une expression d'Adolphe Monod, qu'il me semble ne pouvoir être comparé qu'à celui qui doit, un jour, être le serviteur absolument docile et adéquat de notre âme glorifiée. Ici encore, je retrouve donc en voie d'élaboration, tout au moins, comme en Christ et dans la Bible, cette harmonie des contraires, cette synthèse supérieure qui est la perfection même et l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, en première ligne, égalité, non extérieure et formelle, mais substantielle entre les membres de l'Église, parce que tous ont reçu le Saint-Esprit. Pierre n'a-t-il pas dit « À vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont loin, si éloignés soient-ils » En se justifiant d'avoir baptisé Corneille, sans le circoncire préalablement, ne dit-il pas aussi « Puis donc que Dieu leur a accordé un don pareil au nôtre » Paul ne commence-t-il pas son célèbre chapitre sur les charismes en établissant d'abord que les enfants de Dieu sont égaux en principe, pour avoir été abreuvés tous du Saint-Esprit et plongés dans le Saint-Esprit. Et Pierre, le prétendu premier pape, n'appelait-il pas tous ses frères des rois et des sacrificateurs? Et voilà établi, comme l'une des colonnes de l'édifice, le principe fécond du sacerdoce universel, dont il faudra que rien, ni dans le gouvernement de l'Église, ni dans le culte, ni dans l'activité chrétienne, ne vienne diminuer la souveraine grandeur. Plus de caste à part, plus de clergé essentiellement séparé de l'Église, et qui en fait serait l'Église. Et par conséquent, pas de trace de cette canalisation du Saint-Esprit qui s'appelle la succession apostolique. Et cependant, cette égalité ne sera nullement le nivellement, ni dans la vie civile, où la distinction des classes subsiste, bien que transformée, ni dans la vie d'Église, où à ces dons spéciaux nommés charismes correspondent des fonctions spéciales, des ministères ou services. L'Église ne sera ni un cadre d'officiers sans armée, ni une armée sans cadre. Elle sera armée et cadre, cadre destiné, s'il remplit bien son rôle, à mettre en valeur toute l'armée. Selon ce mot spirituel de Moody, un bon secrétaire d'union chrétienne, ce n'est pas celui qui fait l'œuvre de 10 hommes, mais c'est celui qui met 10 hommes à l'œuvre. Et avant Moody, le Saint-Esprit l'avait dit par la bouche de Paul, qu'en parlant dans le 4e chapitre des Éphésiens des divers ministères de l'Église, il ajoutait, si l'on supprime la virgule, « pour l'organisation des saints en vue de l'œuvre du service ». En second lieu, la fraternité. Et quand l'a-t-on vu réaliser comme dans l'Église primitive? Un cœur, une âme. Ce qui ne signifie pas nécessairement une intelligence, car dans cette unité, la diversité pouvait trouver place. Mais quelle fraternité! Certes, ce n'était pas celle dont on a dit la fraternité ou la mort. Ce n'était pas la fraternité imposée, qui cesse par là même d'être la fraternité. Comme ailleurs, tout ici était spontané et en quelque sorte instinctif. Le partage des biens, par exemple, dont à diverses reprises on a voulu faire la copie, pour ne pas dire la caricature, était absolument libre, nulle contrainte. Pierre l'établit comme un fait indiscuté. Quant au malheureux Ananias, il dit « Tu aurais pu garder ta propriété ou la vendre en gardant le prix. » Dans ce domaine où, communément, l'on croit qu'il y a eu sublime imprudence de la part de l'Église, l'amour inspirait cette générosité des uns et, j'en suis sûr, à cette époque d'équilibre, prévenait les abus des autres. Car, ne l'oublions pas, l'œuvre de l'Esprit n'est parfaite que si elle reste une et indivisible. On ne peut distraire et détacher de cette harmonie des contraires un élément seul sans qu'aussitôt il dégénère. Il faut tout prendre ou tout laisser. Le communisme, sans la sainteté et sans la discipline de l'esprit et la liberté glorieuse de l'esprit, en un mot sans l'atmosphère spirituelle, n'est plus un remède à nos maux sociaux, il les aggrave plutôt. Ainsi, dans cet admirable régime, tout était spontanéité et liberté, non pas licence ou caprice. C'était la conciliation de cette liberté avec l'ordre, comme de l'unité avec la diversité. Autorité, par conséquent, celle des apôtres, celle des anciens et des diacres, et celle de la loi de l'esprit de vie au-dessus de tout. C'était donc la vie qui se formait ses propres organes, la vie qui présidait à leur bon fonctionnement, la vie qui attirait ensuite la vie et tout ce qui avait soif de vie et tenait à distance ou rejetait ce qui s'y montrait décidément réfractaire. Et quand je dis la vie, je devrais plutôt dire Jésus-Christ lui-même, qui, au-dessus des chefs, était le vrai chef, la tête du corps tout entier. Par sa présence invisible et réelle, et son intervention, tantôt indirecte, tantôt immédiate, il ne faisait pas que régner, il gouvernait. C'était lui l'évêque des évêques, ou comme le proclamèrent les Moraves dans le réveil de 1741, l'ancien suprême, l'ancien unique et tout-puissant, en un mot, par le Saint-Esprit, était réalisée la souveraineté de Christ dans l'Église. On se fait souvent une idée bien superficielle de cette souveraineté. Pour qu'elle soit en fait, suffit-il qu'on la proclame solennellement et qu'on la formule en tête d'une constitution ecclésiastique. Suffit-il que l'Église conserve ou reconquiert son indépendance vis-à-vis d'un pouvoir étranger? Non, non, cela ne suffit certainement pas. Et il y a même loin de cette condition négative et préalable à la souveraineté effective de Christ. Si l'Esprit n'est pas là, toujours là, pour la réaliser par son action incessante, il peut se faire qu'à un gouvernement d'hommes, on n'ait fait que substituer un autre gouvernement d'hommes. La souveraineté de Jésus-Christ est un fait spirituel qui exige un autre fait spirituel, la présence et le règne incessant de l'Esprit par la mort du moi individuel et collectif dans l'Église, de telle sorte que, conducteur et simple fidèle, du moins un fort noyau de ceci, s'applique à ne vouloir que ce que veut le Seigneur. C'est donc à genoux surtout que s'établit et se maintient la souveraineté de Christ dans l'Église. Moins de délibération et plus de prière, demandait déjà Adolphe Monod, ce qui n'exclut nullement la délibération. De cette manière, Christ peut vraiment entretenir, nourrir, purifier et protéger son Église, la maintenir sans rides, c'est-à-dire éternellement jeune et sans tache, et faire circuler incessamment sa vie entre ceux qui la composent. Et cette circulation crée entre eux une solidarité qui les rend membres les uns des autres par des liens de consanguinité spirituelle. L'Église devient une société coopérative, une famille agrandie, une société de secours mutuel spirituel, un milieu favorable pour le développement non seulement des nouveaux convertis, mais aussi de ceux qui déjà sont de jeunes hommes ou des pères en Jésus-Christ. Telle fut, à un très haut degré, sinon parfaitement, l'Église primitive. Maintenant que dans ses développements rapides à travers le monde, elle eût pu conserver cette organisation si déliée et si simple, j'ai peine à le croire. Pour toute institution chrétienne, il vient toujours, après une première période où l'on a vécu, agi, aimé, sans se préoccuper de la formule de la vie, une seconde période dans laquelle, nécessairement, il faut s'occuper du vase qui renferme le précieux liquide. Période toujours critique, parce qu'une fois que l'homme organise et réglemente, il est toujours tenté de le faire trop, puis de s'endormir sur le fruit de son effort, en perdant ainsi de l'esprit primitif pour des formes qui s'ankylosent, compriment l'esprit et l'obligent à aller ailleurs. Je ne doute pas que l'esprit, toujours libre, même vis-à-vis de ses propres créations, eût pu adapter aux besoins incessamment nouveaux des cadres suffisamment forts et souples, à la seule condition que ce fût lui qui les créa, et par l'entremise d'hommes remplis de lui. De moins en moins, hélas, il en fut ainsi à travers les siècles, jusqu'au moment où, à côté de l'Église matérialisée, le Saint-Esprit dut se réfugier en attendant mieux, soit dans ces petits groupes de glorieux anonymes que Néander appelle la chaîne d'or qui nous relie aux apôtres, soit dans ces hommes souvent isolés, un Valdo, un De Bruys, ou un Henri de Lausanne, une Catherine de Sienne ou un Claude de Turin, et tant d'autres réformateurs avant la réforme, qu'en passant nous saluerons avec respect, puisque nous leur devons que le Saint-Esprit n'ait pas quitté la terre. Puis, après un trop long hiver, vint le printemps de la réforme elle-même, où de partout éclata de nouveau la vie, mais non sans mélange. Puis les réveils successifs qui individualisèrent et purifièrent son œuvre, les réveils, ces preuves uniques de la vitalité de l'Évangile et de la jeunesse inaltérable de l'Esprit de Christ. Qui pourra jamais écrire l'histoire palpitante de tous ces réveils? Qui épuisera la liste des fruits bienfaisants que porte encore en cette fin de XIXe siècle celui qui l'a inauguré? Dans un an, nous dresserons l'inventaire de ce siècle sur le compte duquel, s'il y a tant de mal, il y a aussi tant de bien à dire. Le siècle des missions évangéliques, à part l'avant-garde morave. Par conséquent, le siècle des 200 à 300 traductions de la Bible. Le siècle des sociétés bibliques et des traités religieux. Le siècle de l'émancipation des esclaves. Et celui de la mission intérieure, arbre aux innombrables branches au loin étendues, qui ont accueilli et abrité toutes les variétés de misères physiques et morales. Le siècle des écoles du dimanche et des unions chrétiennes, le siècle des diaconesses et des sociétés de tempérance, le siècle du relèvement moral, le siècle des associations d'étudiants chrétiens, le siècle, ne l'oublions pas, de l'Alliance évangélique, mais aussi des Églises libres, siècle qui lèguera au suivant un si merveilleux outillage chrétien, une somme si considérable d'expériences accumulées, les trophées de tant de victoires chèrement remportées sur les préjugés et les vices, qu'il me paraît quelquefois, quand j'y pense, que 50 ans pourront suffire si l'Église, retrempée dans l'épreuve, se laisse tout à nouveau remplir de l'Esprit pour achever l'œuvre du témoignage universel qui doit précéder le retour glorieux de Jésus-Christ. Oui, certainement, au cours de ce 19e siècle, le Seigneur nous a fait de grandes choses et nous en avons été réjouis. Mais combien plus grandes pourraient être ses œuvres et plus rapide sa marche conquérante s'il trouvait dans son Église les organes absolument dociles dont il a besoin. Sans aller dire, comme Vinet, « Si tout le monde tarda encore, toute la faute en est à nous », ne peut-on pas affirmer que les conversions s'opéreraient par myriades, malgré l'opposition croissante, si l'on pouvait dire de tous les chrétiens, non pas tous cherchent leurs propres intérêts, mais ils ont abandonné leur vie pour Jésus-Christ. Nos efforts collectifs et officiels vont, il est vrai, sans cesse se multipliant. Mais qu'en est-il de l'évangélisation individuelle, de cet amour des âmes qui, partout où il brûle, fait de chaque chrétien un missionnaire? Possédons-nous cette liberté, cette sainte hardiesse du cœur et des lèvres, dont l'apparition est le premier symptôme de tous les réveils, et la disparition le premier indice du déclin spirituel? Au lieu d'être chacun des gagneurs d'âmes, ne sauvons-nous pas trop par procuration? Et dans tous ces résultats de notre travail, dont je ne méconnais pas les bienfaits, n'y a-t-il pas souvent plus de surface que de profondeur, et plus d'apparence, plus de façade que de réalité divine? Ce que Paul appelait la puissance, et ailleurs la démonstration d'esprit et de puissance, ce mystérieux pouvoir que rien ne remplace, ne nous fait-il pas grandement défaut? Et n'est-ce pas cette lacune trop générale qui explique que cette fiévreuse et ingénieuse recherche de moyens d'attraction religieuse, promptement usée et qui empruntée le plus souvent au monde, aboutissent plus à mondaniser l'Église qu'à christianiser la société? N'est-il pas vrai que, pour la cause de Dieu, on passe par des alternatives d'espoir impatient et d'angoisses excessives qui fatiguent l'âme singulièrement? Tantôt, à l'exemple d'Élie, après un succès éclatant, on voit déjà Israël tout entier ressaisi, les idoles brisées, Acab converti, qui sait? Peut-être même Jézabel conquise à Dieu, et la petite nuée va devenir la grande pluie, et l'enthousiasme vous décuple les forces, on marche, on court, fatigue, effort, sacrifice, rien ne vous coûte, la victoire, la suprême victoire n'est-elle pas là? Et puis, dès le lendemain peut-être, une menace de Jézabel, c'est-à-dire de quelque adversaire, la critique un peu froide d'un allié, un échec subi, ou un simple regard porté de la croix sur le monde, suffira à vous abattre comme Élie sous le genêt du découragement, avec cette exclamation significative « Assez, reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Que le monde se précipite à sa perte puisqu'il le veut, à quoi sert de me tuer pour lui? Heureux si à cette heure critique, quelque ange de Dieu s'approche et d'une voix pénétrante vous murmure à la conscience « Que fais-tu ici, Élie ?» et vous restaure et vous mène en Horeb pour vous y montrer que, si Dieu n'est pas dans la tempête des efforts trop humains, ni dans le feu d'une agitation fébrile, il est dans le vent doux et subtil d'une action patiente, persévérante, humble, toute de foi, d'espérance et d'amour, qui est le véritable fruit de l'Esprit. Frères, c'est ce vent qu'il faut à nos églises, qu'on l'appelle Nouvelle Pentecôte, printemps spirituel, baptême de puissance ou simple recrudescence de l'action de l'Esprit, peu nous importe. L'essentiel n'est-il pas que Dieu nous l'accorde et que nous soyons décidés à le préparer et à l'attendre à genoux? Préparer, ai-je dit, et cela par un emploi fidèle de ce que nous avons de vie actuellement, car notre pauvreté n'est pas l'indigence. Possesseur d'un talent, n'allons pas l'enfouir, fût-ce dans la prière, mais que chacun le multiplie en s'en servant dans l'Église de sa conviction. Vous, frères et collègues des Églises officielles, qui voyez avant tout en elle une école et une station missionnaire, agissez en conséquence, en prêchant, partout et toujours, et quoi qu'il arrive, la nécessité de cette conversion personnelle et de cette régénération par l'Esprit dont j'ai déjà parlé, et préparer à l'Église des hommes de réveil, hommes de l'Esprit, dans ses facultés de théologie, auxquelles, plus qu'à toute autre institution, peut-être convient ce mot si grave, « corruptio optimi pessima », parce que selon qu'il y règne un esprit saint, qui est bien rare, ou un esprit profane, qui en est le perpétuel danger, elles forment des hommes de Dieu, quelquefois des apôtres, ou bien les pires ennemis des âmes, même s'ils sont moraux. Oh, que sur les facultés de théologie, en attendant que Dieu nous donne mieux peut-être, se concentrent jour et nuit les prières de tous ceux qui veulent le réveil de nos diverses dénominations. Et que dirons-nous, en finissant, à nos chères églises libres, nous qui les aimons pour pouvoir leur parler en toute franchise, en leur appliquant librement un mot de l'Épître aux Hébreux, nous leur dirons « Ne vous attardez pas, oh ne vous attardez pas, avec une complaisance charnelle, à poser toujours à nouveau le fondement négatif de votre existence, l'indépendance vis-à-vis du pouvoir civil, mais portez-vous vers la perfection qui est pour l'Église la spiritualité. » L'état de l'Église primitive n'est pas un modèle à bien plaire. C'est un état normal que nous avons à reproduire, autant que le chrétien le sien propre dans la sainteté personnelle. Eh bien, cette spiritualité dont les mobiles, la mort à soi-même, pour la seule gloire de Dieu, ce qui n'est pas le scepticisme ni l'indifférence ecclésiastique. Cette spiritualité dont la composition, qu'un mot des épîtres à tous les saints caractérise, cette spiritualité dans le recrutement, les églises étaient multipliées par l'encouragement de l'esprit, et dans la discipline. Pourquoi n'avez-vous pas pleuré jusqu'à ce que le méchant fût ôté du milieu de vous? Cette spiritualité dans le gouvernement, pasteur, évangéliste, ancien donné par Christ lui-même à l'église en prière. Cette spiritualité jusque dans l'administration matérielle, les diacres remplis de l'esprit. Cette spiritualité dans le culte, dans la communion fraternelle, dans l'activité extérieure, qui doit faire de chaque église un foyer rayonnant de vie, un accumulateur d'électricité divine, une entreprise de salut public, en même temps qu'un milieu favorable pour le développement individuel, cette spiritualité est-elle notre partage? Mon Dieu, quelle distance nous en sépare encore, malgré les progrès partiels pour lesquels nous te bénissons? À genoux, donc, à genoux au pied de la croix qui est le vrai trône de la grâce, à genoux dans l'humiliation et la prière, nous surtout, membres des églises libres, qui sommes d'autant plus responsables que notre mission est plus belle et nos principes plus excellents, à genoux avec nos frères des autres églises, que nous ne voulons plus juger, mais gagner plutôt par notre vie. À genoux, non pas seulement dans des réunions extraordinaires, mais tout d'abord à deux ou à trois simples chrétiens et chrétiennes, ou collègues dans le ministère et le professorat, membres de nos comités d'union et moniteurs dans les écoles du dimanche, à genoux dans nos maisons, à genoux souvent dans nos séances, à genoux avec une persévérance invincible, sachant que rien ne résiste à l'action prolongée des deux ou trois. Alors, bientôt peut-être, au sein des églises vivifiées, et pourquoi ne pas dire au sein d'une seule Église, nouvelle et sans épithète, retentira comme jamais le cantique de notre doxologie. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre époux et notre frère, son immense charité dure à perpétuité.